Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Les élections européennes approchent, elles auront lieu le 26 mai prochain. Nous débattons aujourd'hui de l'économie, de l'emploi. L'Europe a-t-elle la main? L'Europe, première puissance commerciale mondiale, et en Picardie, 5 000 entreprises bénéficient d'un soutien des fonds européens, 21 000 dans les Hauts-de-France. Si elle est bien perçue par certains, pour d'autres, l'Europe est toujours autant décriée, critiquée pour son libre-marché, son absence d'harmonisation fiscale, de justice sociale, un désamour qui favorise la montée des populismes. Dans Dimanche en politique aujourd'hui, nous allons voir comment les candidats qui souhaitent siéger à Bruxelles peuvent agir, enrayer le chômage de masse que subissent les Hauts-de-France. Faut-il aller vers une Europe davantage sociale? Trois invités ici même pour en débattre. Roland Spircaud tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes candidat lutte ouvrière placé en 78e place sur la liste menée par Nathalie Arthaud.
Voilà, juste aux côtés d'Arlette Laguiller qui clôt cette liste ouvrière.
Face à vous, Rémi Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat place publique PS de la Somme, l'unique candidat Picard porté par Raphaël Glucksmann.
Exactement, et on a eu un ralliement du coup de Nouvelle Donne et des radicaux de gauche pour cette liste de rassemblement. Donc on est encore ouvert puisque la fermeture des listes électorales, des listes électorales pour le 3 mai. Donc on est encore ouvert à de potentiels ralliements.
Les listes ont, les élus ont jusqu'au 3 mai pour déposer leur liste et la date butoir. Enfin, Jean-Philippe Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes candidat Debout la France de la Somme en 3e place sur la liste portée par Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.
Et nous sommes soutenus par le Centre National des Indépendants et Paysans, le plus vieux parti France.
Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez siéger à Bruxelles. Comment pouvez-vous enrayer le chômage de masse que subissent les Hauts-de-France? Rémi Cardon, quelle est votre proposition phare?
La proposition phare, c'est tout simplement un plan d'investissement pour donner un coup de pouce sur les filières qui ont en tout cas un mérite d'exister, les filières sur l'énergie renouvelable. Je tiens à rappeler quand même que dans les Hauts-de-France, c'est plus de 1800 emplois. Sur le parc éolien, sur les différents parcs éoliens qu'il y a en Hauts-de-France. Donc il y a vraiment des filières à renforcer et aussi contrôler un maximum ce libéralisme, et on va le voir sur les exemples que vous allez présenter. Il y a certainement un moyen de contrôle, enfin l'Europe a son mot à dire pour contrôler le libéralisme qui est promulgué par certaines entreprises.
Alors Jean-Philippe Tanguy, vous adhérez aux propositions de Place Publique Parti Socialiste concernant le fait d'enrayer le chômage?
Bien sûr, investir dans les emplois d'avenir, tout le monde est d'accord. Encore faut-il les protéger de la concurrence déloyale. Et la proposition principale de Debout la France, c'est revoir les règles qui, depuis 1992, par traité, des traités signés malheureusement par les socialistes, par les républicains, les centristes, qui ont autorisé la concurrence déloyale, la concurrence des pays de la mondialisation, la Chine, l'Asie du Sud-Est, qui fait rentrer des pays des produits toxiques, des produits dangereux, produits dans des conditions proches de l'esclavage, mais aussi la concurrence au sein de l'Union européenne, une concurrence déloyale. L'usine Whirlpool d'Amiens est partie en Pologne sur un site financé par des fonds
européens. On va en parler de l'usine.
Vous allez siéger dans quel groupe, monsieur?
Je siégerai au sein,
à la Creux,
dans un nouveau groupe. Mais je ne vous ai pas interrompu sur votre introduction, mais nous siégerons dans un nouveau groupe qui rassemblera effectivement toutes les personnes qui n'ont pas signé ce traité.
Avec les ultralibéraux, effectivement.
Ouais. Des ultralibéraux, vous savez, c'est un ralliement de partis qui défend chacun les nations et qui défend les intérêts de ces nations et ses emplois. Et la concurrence déloyale, notamment le travail détaché qui touche 48 000 postes dans les Hauts-de-France en 2007 selon la Cour des comptes, il faut abroger cette directive. Il faut aussi bien sûr investir dans l'avenir, monsieur l'a dit, il a tout à fait raison. Je pense notamment à la chimie verte qui peut produire beaucoup d'emplois en Picardie.
Alors Roland Spircaud, vous aimeriez-vous, lutte ouvrière, interdire les licenciements? C'est cela qui va régler chômage de masse?
D'abord, première mise au point, nous ne nous présentons pas au suffrage des Français, mais au suffrage des nôtres, c'est-à-dire de la classe ouvrière, de la classe des travailleurs, de ceux qui produisent par leurs mains, leurs têtes, et qui sont soumis à l'exploitation de la classe capitaliste. Et c'est à eux que vous nous adressez pour lui redonner confiance dans les possibilités de changer les choses. Deuxième point, l'Europe ne changera rien, de quelque façon que ce soit, pour aller dans le mieux, ou même, je pourrais dire, dans le pire de l'emploi, parce que les institutions politiques de l'Europe, comme l'État français sont des émanations faites pour servir ceux qui commandent vraiment, les grands groupes capitalistes, et ceux qui licencient en masse aujourd'hui, ce sont eux. Et les aides qui peuvent leur être données par les uns et par les autres servent à enrichir les grands groupes capitalistes. Et à ce niveau-là, je voudrais justement mettre au point quelque chose. On dit il faut que les entreprises s'enrichissent pour que les travailleurs puissent en bénéficier pour garantir l'emploi. C'est un mensonge éhonté. On pourrait même dire que les bénéfices d'aujourd'hui préparent les licenciements de demain. Aujourd'hui, la majorité des bénéfices sont redistribués sous forme de dividendes. Je peux vous donner un chiffre. En le dernier trimestre, il y a eu 50 milliards pour un trimestre de dividendes redistribués aux entreprises.
Vous adhérez,
et je vais terminer là-dessus. Ça veut dire en un an, les entreprises ont redistribué aux actionnaires qui ne font rien de leur dix doigts, qui n'apportent aucune richesse, 23,5% de plus comme revenu au détriment des travailleurs. Et c'est pour ça qu'on licencie, pour donner de l'argent aux dividendes, aux actionnaires qui pourront le dépenser comme ils veulent. Comme M. Pinault, par exemple, a pu se permettre d'offrir 100 millions comme ça par-dessus, en jetant par-dessus la fenêtre pour aider, soi-disant, à la reconstruction de Notre-Dame. Ce qu'il en est.
Rémi Cardon, est-ce que ce sont des propositions que vous accueillerez? La liste est ouverte, vous l'avez dit tout à l'heure, lutte ouvrière, Parti socialiste, place publique.
C'est une doctrine que l'on défend également sur notre programme, c'est-à-dire qu'effectivement, pour le coup, la France est un mauvais élève sur les dividendes, si je reprends vos propos. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est qu'il y a un gros travail à faire sur, et l'Europe a son mot à dire, pour à la fois contrôler ce qu'il y a pu tenter de faire, ce que l'Europe a pu tenter de faire sur les GAFA ou sur les grandes entreprises. Il y a un réel souci de contrôle et de redistribution d'argent qui, et en plus, même sur le côté. Sur le marché de l'agriculture, il y a également un gros problème et on a des cas concrets qui sont présents dans la Somme, notamment dans les départements.
En attendant, la courbe du chômage, elle a du mal à être inversée en Picardie. Vous voyez ces chiffres. Les Hauts-de-France et la région française la plus touchée par le chômage sur le territoire français. Au dernier trimestre 2018, le taux de chômage a atteint 11% dans les Hauts-de-France, 8,8% en France à la même période. Alors, quelles solutions pouvez-vous apporter aux personnes qui se rendent à Pôle emploi une fois que vous siégerez, nous verrons bien, à Bruxelles?
Écoutez, il faut relocaliser des emplois. Pourquoi est-ce que notre région a un taux de chômage aussi fort? Nous étions le bastion de la production industrielle en France. Nous étions le poumon vert, nous nourrissions la France. Et les règles de l'Union européenne, de cette mauvaise Europe, ont considérablement affaibli l'industrie et l'agriculture des Hauts-de-France. Pour l'industrie, je l'ai dit, nous importons sans contrôle, via Dunkerque, via Le Havre, via surtout les Pays-Bas, des marchandises face auxquelles nous ne pouvons pas être compétitifs puisque ce sont produits par des esclaves qui saccagent l'environnement. Donc est-ce que oui ou non, on met enfin une frontière carbone à l'Europe qui permette de protéger nos industries pour protéger aussi notre agriculture?
Des esclaves, c'est un terme qui vous convient, Rémi Cardon?
Le mot est un peu fort.
Bah, écoutez, quand vous avez un bâtiment au Bangladesh qui s'effondre et qui fait plus de 1000 morts et que la Commission européenne, avec l'aval des députés socialistes, signe un traité de libre-échange...
Lequel?
Il y a un traité accord commercial entre le Bangladesh et l'Union européenne qui favorise les
importations. Citer le traité.
C'est un traité de libre-échange avec le Bangladesh. Oui. Il y en a avec le Bangladesh, avec le Pakistan, qui favorise les importations. Et quand cet immeuble s'est effondré il y a 2 ans au Bangladesh, notre groupe, que vous avez cité tout à l'heure, la CRE, a demandé la suspension de cet accord commercial. Et malheureusement, les républicains et les socialistes ont continué à importer des produits de pays qui utilisent les
esclaves. Vous ne manquez pas d'air en parlant du Bangladesh, en oubliant un petit détail qui donne du travail au Bangladesh. Pourquoi vous ne demandez pas l'expropriation de ces groupes capitalistes bien français, Carrefour, les autres, qui donnent, eux, du travail pour le payer le moins cher possible? Le problème, c'est que les capitalistes, ceux qui dirigent, c'est pas les politiciens, c'est même pas Macron. Vous, dirigeants politiques, en servant la bourgeoisie, vous êtes là pour les servir. Allez demander à vos maîtres ce qu'il faut faire.
C'est eux
qui. Ceux qui donnent du travail, payés moins que rien du tout au Bangladesh, c'est M. Arnault, c'est M. Pinault.
Mais ils le font parce que c'est autorisé, monsieur.
Non, ils le font parce que ça rapporte, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils doivent placer.
Et il n'y a pas... Il y a des règles, monsieur.
Non, la règle, ce serait...
Est-ce que vous êtes d'accord pour que les produits ne rentrent plus en Europe?
Mais absolument pas d'accord. Parce qu'à ce moment-là, vous rangez votre téléphone, et puis vous rangez votre veste,
Français,
vous rangez tout.
Les ouvriers français, ils sont capables de produire des
non,
téléphones.
Non, monsieur,
les ouvriers français,
la classe ouvrière, elle n'est pas dirigée, elle n'est pas divisée en frontières. Moi, ce que je voudrais, par rapport à la France et par rapport aux autres pays, c'est que les travailleurs se tendent la main et se battent pour avoir des salaires dignes partout. Non, il n'y a pas. Nous ne rallierons jamais derrière ces patrons qui, eux, s'enrichissent et qui disent à M. Macron, comme à M. Dupont-Aignan, comme aux socialistes, ce qu'il faut faire.
Personne ne dit rien, M. Dupont-Aignan.
Non, eux, vous êtes la seule chose qui pourrait changer. Qui pourrait changer, c'est d'exproprier cette classe capitaliste.
Alors, et pour ça, sont au Bangladesh.
Très bien.
Vous demandez l'expropriation d'usines qui sont Bangladesh.
Avançons dans le juste un mot avant d'avancer.
Et je pense que, puisqu'on m'a interpellé, notre liste, en tout cas, veut suspendre les différents traités, comme le CETA ou d'autres.
Dans le détail, de quelle manière les suspendre
En
le
imposant,
CETA.
Justement, donc, de suspendre ces traités pour avoir enclencher une surveillance sur certains critères, c'est-à-dire sur le critère environnemental, sur le critère social, sur le critère fiscal. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra éventuellement échanger, faire activer ce traité de libre-échange. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça, parce qu'on dit que le Parti Socialiste ou le groupe SED a voté pour ces traités. Mais c'est complètement faux.
Non, pour le traité de Lisbonne, j'ai dit.
Oui, voilà. Bah.
Qui organise le traité.
Revient encore en arrière.
Oui, excusez-moi. C'est intéressant. Il y a eu des négociations ouvertes contre la France avec les États-Unis pour un traité de libre-échange. Pourquoi ? Parce que par le traité de Lisbonne, vous avez suspendu le droit de veto de la France. Donc la France ne peut pas s'opposer, monsieur, à des traités commerciaux avec les États-Unis, avec le Canada,
et
que
donc
la
on
Commission
fait quoi
ouvre.
On fait
Il
quoi
faut
on
rétablir vient... le droit de veto. Nous demandons le rétablissement du droit de veto de la France souveraine pour que quand un traité qui ne correspond pas aux intérêts de la France ou d'autres pays, il puisse être bloqué. Sinon, je crois que vous êtes très sincère, je n'attaque pas du tout votre sincérité, monsieur. Le problème, c'est que vous siégerez, je vous souhaite de siéger, mais votre initiative sera bloquée car les Français n'ont plus le droit
mais
de bloquer
qui les Français. Qui les Français bah,
écoutez, on vote pour les Français, là.
Si,
présentez-vous au Bangladesh, ils vous tendent la main.
Je vous parle de qui
on pouvait parler
le Bangladesh, on va parler de la Picardie et des emplois pour les Picards, s'il vous plaît.
Les intérêts de qui? Quand on défend la France, on défend les intérêts de qui? De M. Pinault, de M. Arnault ou bien de l'ouvrière qui est en train de s'user la santé dans les entreprises ici, proches d'ici. Il faut savoir.
Personne ne défend M. Pinault.
Le problème, justement, croire que les intérêts des patrons français et des salariés français sont les mêmes, c'est une... Quand on défend la France, il faut se voir qui on défend. Moi, je défends l'ouvrière qui se trime la santé.
On a bien compris, Roland Spirko, s'il vous plaît, merci. On va donc avancer dans ce débat. Et pourtant, l'Europe, elle agit dans le secteur de l'économie. Deux programmes de fonds européens permettent de cofinancer des projets donc, dans les Hauts-de-France. Tout d'abord, le Fonds européen de développement régional soutient les aides à l'entrepreneuriat. Concrètement, ça représente 360 millions d'euros de fonds européens qui sont attribués, vous le voyez, dans les Hauts-de-France, 57 millions pour la Picardie. Il s'agit de projets dans des domaines très variés, la recherche, l'innovation, les entreprises, usages, infrastructures numériques, l'environnement, efficacité énergétique. L'Europe finalement, et partout, ce n'était pas suffisant tout de même pour relancer le monde de l'entreprise. Donc Jean-Philippe Tanguy, cette Europe-là, elle fait quand même des choses, malgré ce que vous dites.
Ben non, elle ne fait rien, parce que l'argent dont vous parlez, c'est de l'argent français, puisque la France est contributrice nette au budget européen. En 2016, 11 milliards, cette année 5 milliards, l'année prochaine encore 10 milliards. Donc en fait, cet argent européen, c'est de l'argent français. Donc on pourrait s'en occuper directement. Mais parce effectivement...
Avec la PAC, on est quand même aussi les grands gagnants.
Bah, on n'est pas gagnants, parce que même avec la PAC, on a 9 milliards de... Non, mais on a 11 milliards...
On se débrouille bien quand même. Faut pas
quand
dire
on perd
le contraire.
11 milliards par an, peut-être que vous êtes content de perdre 11 milliards par an, mais quand on perd 11 milliards par an, c'est qu'on est quand même perdant. Mais ce que je voulais dire par là, vous avez raison, par contre, il faut faire des projets. Nous, à Debout la France, on veut récupérer un certain nombre de pouvoirs, mais on veut que l'Europe s'occupe justement de ces grands projets. C'est pour ça que j'ai parlé de la Chine.
Alors, Rémi Cardon, cela représente presque 10 000 emplois créés, donc ces fonds européens pour la Picardie. Donc qu'est-ce que cela vous évoque? Cette Europe, il faut la réajuster, il faut la remodeler. De quelle manière?
Elle a toute sa place et elle a intérêt à instaurer un maximum à la fois de fonds, mais aussi de prestations sociales pour ces personnes qui vont rentrer dans le monde du travail. Et je prends un cas très concret, une association qui accompagne de futurs entrepreneurs, la BGE par exemple, qui reçoit des fonds FEDER, qui accompagne des couveuses d'entreprises. Et donc ce sont des fonds européens et qui, dans le parcours de certaines personnes, vont à la fois créer des emplois, à la fois créer des entreprises. Donc l'Europe fait des choses. Maintenant, il faut l'amplifier, le faire connaître. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'Europe ne fait rien.
Alors, vous proposez chacun différentes choses. Le SMIC européen, qui en parle ici?
Mais je veux dire,
vous aussi, donc du côté de Nicolas Dupont-Aignan.
Un petit point de quand même mise au point. Quand vous dites les aides aux entreprises, sous-entendu que l'argent qu'on
donne aux entreprises... Je parle des petites entreprises, monsieur, je parle des auto-entrepreneurs.
Laissez-moi parler.
Je parle de personnes qui...
Non, je parle des aides qui sont données aux entreprises, aux 360 millions donnés par l'Europe, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que l'État français donne aux entreprises. Aujourd'hui, le simple pacte de responsabilité qu'a mis en place monsieur Hollande, du jour au lendemain, depuis 2017, fait rentrer dans les caisses des entreprises 43 milliards. Et auparavant, les aides aux entreprises étaient déjà chiffrées à 150 milliards.
Donc ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle est le fond de votre
thèse? Mais ça veut dire que ça, l'argent qui...
Ce n'est pas suffisant ce que l'Europe donne pour l'entreprise.
Non, ce n'est pas ça. C'est que l'argent qui est donné aux entreprises va dans la poche des actionnaires dont je parlais tout à l'heure. L'investissement, il a baissé de plus de 30%. L'argent qu'on leur donne, l'argent qu'ils emmagasinent sur le dos des travailleurs en les faisant suer sang et eau, eh bien il va dans leur poche, ils le gaspillent, ils le dépensent, comme monsieur, je parlais de Arnaud qui balance 200 millions, comme monsieur Pinault balance lui 100 millions, et ces gens-là se servent...
Rémi Cardon, vous souhaitez réagir, s'il vous plaît.
Une précision par rapport à
Roland Spirko, il y a un temps de parole à respecter.
Vous parlez du SMIC, vous parlez encore des grandes entreprises.
Donnez l'exemple de monsieur Pinault qui, en un an, c'est augmenté
Pinault,
de 500%. Parce que c'est
ça
eux qui mènent.
Vous citez, monsieur Pinault.
Mais parce que monsieur Pinault et monsieur Arnault,
là,
ils ont plus de pouvoir que monsieur Macron.
Au vrai sujet, qui est l'économie et l'emploi.
Oui, comment empêcher les travailleurs
comme un objectif à long terme. L'objectif à long terme, c'est d'aller chercher un SMIC européen.
Donc c'est ce que vous voulez mettre en place.
J'ai pas fini ma phrase. L'objectif à court terme, c'est d'imposer, ou du moins de donner envie aux États membres d'aller vers un SMIC. Et ensuite, on ira sur un objectif à long terme qui sera d'avoir un SMIC européen. Voyons, il faut y aller progressivement. Oui, parce qu'on ne va pas bousculer.
Vous savez, en Bulgarie, il y a un SMIC, il est à 240 euros.
Mais justement, c'est pour rééquilibrer et orienter.
Donc il faut harmoniser tout ça, effectivement.
C'est l'objectif.
Absolument, mais pourquoi est-ce que nous étions contre l'élargissement? En fait, l'Europe, l'Union européenne, a beaucoup changé avec l'élargissement, puisque du jour au lendemain, nous avons fait rentrer dans l'Union européenne, enfin nous, les partis au pouvoir ont fait rentrer dans l'Union européenne des pays au niveau social insupportables pour la France. On ne peut pas du jour au lendemain mettre un salarié français, un ouvrier, avec un bulgare qui gagne 240 euros. C'est impossible. Donc il faut conditionner l'accès au marché européen, que vous avez cité tout à l'heure, à de l'harmonie sociale, fiscale. Il n'est plus possible de faire cohabiter...
Vous accordez sur le fait qu'il faut mettre en place un SMIC européen.
Mais la différence, c'est que nous n'étions pas au pouvoir, madame. Et il faut des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, ils ne vont pas s'harmoniser, puisque ça ne peut pas marcher.
C'est pour ça que je dis
qu'il faut... Il y a un seul moyen. Quel est le moyen de pouvoir imposer un SMIC européen? Ça serait bien la première chose à faire. Et comme on dit, aujourd'hui, il y a de 10 à 20 les salaires différents entre les uns et les autres qui profitent à ces grands groupes. Et bien là, il y a un moyen simple. C'est que les travailleurs de France, comme les travailleurs d'Allemagne, se mettent en lutte contre leurs patrons respectifs et imposent de gré ou de force. Et on a commencé, à le faire. Et moi, j'en ai été témoin avec les travailleurs de Continental pour s'opposer au licenciement, pour garantir les emplois des travailleurs d'Allemagne et de France. Il y a eu une manifestation commune où les travailleurs se sont rassemblés coude à coude et ont dit « allez zusammen », ça veut dire « tous ensemble », en français et en allemand. Ils ont commencé à construire cette Europe sociale, c'est-à-dire par le bas, par les travailleurs eux-mêmes, qui prendront les patrons à la
fin et
qui leur imposeront
la SMIC européen. C'est les citoyens, et pas que les ouvriers, ce sont les citoyens qui vont le faire.
Roland Spirko, justement sur ce point...
Mais ça commence justement le dimanche 26 mai où... on met un bulletin de vote dans le... Dans...
Les élections n'ont jamais rien changé.
Roland Spirko, sur ce point, ah, justement, soyons très concrets, s'il vous plaît, il faut un tout petit peu s'écouter. Oui. Sur ce point, vous souhaitez-vous, à Lutte ouvrière, mettre votre proposition phare, c'est la convergence des ouvriers de l'Union européenne. Très concrètement, comment comptez-vous faire entre les 27 pays membres?
Eh bien, quand les travailleurs se mettent en lutte, je parlais des travailleurs de Continental, les travailleurs, eux, quand ils se mettent en mouvement, quand ils prennent conscience de leur force, ce qu'ont essayé de faire un peu les Gilets jaunes à leur façon, se rendant compte qu'en étant des dizaines de milliers dans la rue, on représente une force, la seule force qui peut bouger, la seule force qui peut changer les choses. Quand les travailleurs se mettront en mouvement, il faut qu'ils aient cet objectif, comprendre que les travailleurs de l'autre côté des frontières sont les seuls alliés. Alors, et que leurs ennemis... Laissez-moi finir.
On fait la révolution, et leurs ennemis.
Oui, il faudra exproprier la bourgeoisie à terme. Mais en attendant, il faut imposer, pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer un SMIC à 1800 euros valable en France et dans tous les pays, pour imposer le contrôle sur les entreprises, il faudra bien sûr un soulèvement ouvrier.
Merci,
mais il faut l'avoir
merci Roland Spirko. Donc, on va donc avancer sur les propositions. Vous parliez-vous dans votre programme d'un protectionnisme vert. De quoi s'agit-il précisément?
C'est pour le cas du
site. Pour préserver l'emploi et relancer l'économie.
Et prenons un cas très concret qui est dans l'est du département de la Somme, le site d'Epeville justement. Ce cas-là, il démontre bien le libéralisme à outrance qui a poussé à augmenter la production, à arriver à un résultat où on accumule les stocks et derrière, les prix chutent. Et qu'est-ce que la finalité, la conclusion, c'est de faire une sorte de plan social où on va muter les gens vers d'autres sites ou alors tout simplement fermer certains sites. Vous voyez qu'en gros, si l'Europe ne commence pas par travailler sur son marché intérieur avant tout, en priorité, c'est l'objet du protectionnisme vert justement, s'il ne commence pas par là, ça ne sert à rien d'aller s'affronter au marché mondial, justement.
Alors, Jean-Philippe Tanguy, oui. Autre proposition qui revient, notamment dans votre programme et d'autres d'ailleurs, le patriotisme économique communautaire. Oui. De quoi s'agit-il exactement pour relancer, on va dire, l'économie picarde et celle des Hauts-de-France?
Il s'agit tout d'abord, je vous l'ai dit, de protéger nos frontières, mais aussi au sein des pays de l'Union européenne et naturellement au sein de la France, de nous autoriser à encourager, par exemple, les PME locales, les agriculteurs locaux, en autorisant les marchés publics à prioriser, à favoriser...
On a exactement la même proposition.
Absolument, mais c'est interdit, je suis désolé de vous le redire, c'est interdit par le traité de Lisbonne, donc il faut changer le traité.
Vous allez ressortir à chaque fois, en fait, c'est ça l'argument de la Constitution. Bien sûr.
C'est pas l'argument, c'est la réalité, monsieur. Pourquoi est-ce que vos prédécesseurs ont échoué? Il faut se poser la question. Parce que malheureusement, vous avez donné le pouvoir...
Parce que vous n'avez pas réussi à atteindre le pouvoir.
Non, parce que vous avez donné le pouvoir à une commission européenne qui n'est pas élue et qui a tous les pouvoirs. Prenons Epeville. Qu'est-ce qui s'est passé à Epeville?
La sucrerie d'Epeville, dans le département de la Somme, située à Ham, qui ferme ses portes début d'année prochaine.
Non, mais je pense que tout le monde les soutient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un règlement au sein du marché communautaire qui avait été obtenu par les gaullistes il y a 40 ans, qui était les quotas de sucre et les prix minimums garantis. Il s'agissait de protéger la production picarde, la production française en général.
50 ans, ça fait...
Oui, bah ça marchait bien, monsieur. Oui, ça marchait bien, monsieur. Ça permettait aux agriculteurs picards d'avoir un revenu décent et de ne pas être concurrencés, comme vous l'avez dit, avec des survolumes. Ce règlement a été modifié en 2013 et appliqué en 2017 par une commission européenne
qui a été soutenue par les socialistes. Il faut remettre
des quotas.
Vous rejoignez la proposition de Jean-Philippe Tanguy, de Dupont-Aignan, sur ce point. Le groupe Sucre se trouve donc en Allemagne, ferme des sucreries, dont celle d'Epeville. Donc, est-ce que ça se passe en Europe, tout ça? Ne faut-il pas agir? De quelle manière agir?
De toute manière, et en plus de ça, ce que je voulais compléter par rapport au propos de Jean-Philippe Tanguy, c'est que au final, le gros problème en France et même en Europe, c'est à force de justement de basculer des parce que là, pour le coup, c'est des coopératives qui ont pris de l'ampleur et qui sont devenues des grandes entreprises, ou tout simplement qui ont été rachetées par des grandes entreprises. Et le résultat, au final, c'est on pousse vers le productivisme, Et le résultat, c'est on accumule le stock et le résultat, c'est tout simplement qu'on n'a aucune solution puisqu'on n'arrive plus à répondre aux besoins et puisque la demande n'est pas là. Oui. Donc vous voyez, il y a un problème de stratégie des entreprises. Donc la responsabilité est partagée à la fois de l'Europe qui n'a pas répondu comme vous l'avez cité, et également les entreprises qui n'ont pas répondu présent. Ils n'ont pas eu une vraie stratégie.
Franchement, qui décide ? Là, c'est le groupe Kruger, qui avant était un groupe français, eux, ils décident de placer leur argent à tel endroit ou à tel autre en fonction de ce que ça rapporte. Quand Dossi a fermé son usine, au Plessis-Belleville, ou quand Bonduel supprime des centaines d'emplois, c'est indépendamment de savoir des
angles, le sujet, c'est
savoir combien ça rapporte. Si on ne s'attaque pas au profit de ces entreprises, en allant leur prendre dans leur poche, en mettant les travailleurs avec les paysans. Parce que moi, j'ai mené une lutte avec les travailleurs de Dossi et les paysans qui étaient spoliés.
Mais là, on parle de la sucrerie des paysans.
Parce que tous les groupes de l'agroalimentaire sont les mêmes. Vous ne les obligerez à rien.
Il y avait un règlement, monsieur.
Vous êtes là pour les servir. Et donc, pour les obliger,
Avant, il y avait un règlement et aujourd'hui, il n'y en a plus.
Mais ce n'est pas le règlement qui compte là-dessus.
Ah bon,
c'est les décisions des industriels.
N'importe quoi.
Ils n'en ont rien à foutre à un certain niveau.
L'émission s'achève. Roland Spirko, dans 30 secondes, s'il vous plaît. Juste un mot et ensuite un dernier mot et l'émission arrive à son terme.
C'est surréaliste. C'est comme le lait. Il y avait des quotas et des prix minimums garantis. C'était de la politique du général de Gaulle. Parce que c'est ancien, que c'est mauvais. Hein, voilà. C'était la régulation. Ils ont supprimé le règlement, il n'est plus appliqué. Ça n'a rien à voir avec les profits.
Donc
il faut réguler la production.
Voilà.
Quota et prix minimum pour les agriculteurs.
Rémi Cardon, deux mots.
Pour finir, tout simplement, parce que l'émission se termine, je dirais qu'on a tout simplement, le 26 mai, il y a l'occasion d'envoyer des eurodéputés, des combattants, pour défendre une Europe plus sociale, plus écologique et plus démocratique.
Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Je vous le rappelle, le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai à un tour. Merci à vous trois. Dans un instant, l'info régionale. Dimanche prochain, nous parlerons toujours Europe, éducation. Très belle journée, très bon dimanche et à bientôt sur France 3.